Merci de votre accueil. En effet, modernité, christianisme et fin du monde. Je vais diviser cette prise de parole en trois temps. D'abord, une mise en situation de notre thème, afin de vous exposer la manière dont j'ai choisi de le traiter. Ensuite, j'exposerai le lien, à mon avis, puissant et très profond entre modernité et fin du monde. Et enfin, je vous donnerai quelques éléments de réponse chrétienne qui seront peut-être en point de suspension et qui seront peut-être aussi l'occasion pour nous de partager à travers un échange. Mais donc d'abord, mise en situation, donc après exposition du lien tendu entre modernité et fin du monde, et puis comment en tant que chrétien entendre une réponse. Donc mise en situation. Donc vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'éco-anxiété et qu'on parle aussi par ailleurs, en tout cas l'un de nos citoyens français, d'éco-terrorisme. En réalité, de ce que je vois, de ce qu'il se passe dans les établissements scolaires, on alimente souvent celui-ci, l'éco-terrorisme, par celle-là, l'éco-anxiété, et puis après on stigmatise celle-là, l'éco-anxiété, à cause de celui-ci. C'est-à-dire qu'à l'école, on enseigne aux enfants la catastrophe ou les catastrophes auxquelles ces enfants, ces étudiants ne pourront pas échapper. Mais s'ils laissent tout à coup tout là pour aller défendre leur possibilité d'exister dans le futur, eh bien, alors ce même état qui propage l'éco-anxiété se met à appeler à terrasser leur soulèvement. Alors, heureusement pour moi, je n'ai pas appris l'éco-anxiété à l'école. Je l'ai attrapé tout seul quand j'avais 8 ans. En avril 1986, la centrale de Tchernobyl sautait. Autre chance, je n'ai pas eu besoin d'être éco-terroriste. C'est-à-dire que d'être un jeune éco-terroriste, hein, un vieil homme nommé Günther Anders à l'époque le faisait pour nous, les jeunes. Il appelait à la violence pour saboter la machine et faire mentir l'adage qui veut qu'on n'arrête pas le progrès. Et en effet, en 1987, il faisait paraître un texte qui s'appelait « La violence, oui ou non » et il répondait « oui ». Donc il se trouve qu'à cet âge, à 8 ans, on vivait non pas une, mais deux mondialisations. Il y avait celle du nuage de Tchernobyl, évidemment. C'était une mondialisation spatiale et temporelle, avec une unité de temps et de lieu. Une mondialisation spatiale en ce que, bien avant les Berlinois, ou quelques années avant les Berlinois, le nuage se faisait tous les murs qui nous séparaient. Temporelle aussi, comme mondialisation, puisque, comme l'avait montré Hans Jonas, nos actes avaient désormais, on le constatait, des effets dont le terme excédait largement l'époque où ces actes étaient posés. Ainsi, les radiations nucléaires concerneraient des générations futures qui n'étaient pas celles qui avaient connu la catastrophe. Le mois suivant, toutefois, j'assistais à une autre mondialisation, une mondialisation beaucoup plus heureuse, le bien nommé Mondial, Coupe du monde de football à Mexico. Michel Platini, l'Italien qui avait grandi à Jeuf, à quelques kilomètres de chez moi, y joua le rôle que peut-être vous savez, pour ceux qui s'intéressaient au football ou qui ne sont pas trop jeunes. Donc il y a eu, c'est vrai, une petite fin du monde au moment de ce mondial, quand l'Allemagne battit la France en demi-finale. Mais vous voyez, même ça, la France perdait contre l'ennemi éternel, mais sans passer par la montée aux extrêmes imaginée par Clausewitz lors de la guerre entre la France et la Prusse. Finalement, l'Allemagne pouvait battre la France sans que ce soit une catastrophe. Il y avait comme un goût de fin de l'histoire. Donc j'avais 8 ans et je contemplais le monde à la fois comme fête et comme catastrophe, deux mondialisations qui se regardaient. Mais il se pourrait en réalité que la fête elle-même était une catastrophe, comme l'avait pressenti ou comme le pressentait déjà à l'époque Philippe Meret, et comme on le verra nous-mêmes au JO de Paris, pour lequel, vous l'avez vu, notre gouvernement a déjà fait passer quelques lois, qu'on peut dire martiales, en tout cas liberticides, qui seront propres à étouffer un peu plus la possibilité d'un monde. Il se pourrait en effet que la fin de l'histoire, dont on s'est empressé de faire en Occident une grande fête, est partie liée avec la fin du monde. Et c'est ce que nous a montré aussi, je suis encore dans ma mise en situation, c'est ce que nous a montré l'actualité récente. Ces dernières semaines, dans plusieurs grands musées, des militants écologistes ont aspergé de nourriture quelques-uns des grands chefs-d'œuvre de la peinture. En plus de la sauce tomate et de la purée, ces activistes écologistes ont fait couler beaucoup d'encre, pour ou contre leur façon de dire ce qu'ils ont à dire. Se posant cette question, on ne s'est pas beaucoup demandé, mais qu'est-ce qu'ils cherchaient profondément à dire ? Bon, il faut sauver la planète. Bon, en réalité, c'était intéressant de se demander pourquoi ce qu'ils disaient, ils le disaient dans ce lieu, le musée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un musée ? Le musée est précisément le lieu de la célébration de la fin de l'histoire. Le Louvre est créé en 1793. Il s'agissait, dans le sillage de la Révolution, de conférer un statut aux biens dont l'Église venait d'être expropriée. Ces peintures, ornements et statues n'étaient plus considérés comme des objets de piété. Alors, on pouvait les détruire, mais on les conserva plutôt comme la trace d'un passé révolu. Car tel était l'espoir révolutionnaire, l'histoire, cette vallée où tant de larmes coulèrent, prenait fin. Enfin. Bref, le règne incontestable de l'État remplacera bientôt celui tumultueux de l'Église, les deux grands E majuscules. Et la science viendra à bout de nos superstitions. Si l'on s'est longtemps accommodé des pillages, qui étaient parfois méthodiques, sans lesquels nos musées n'auraient jamais vu le jour, si l'on a accepté ces pillages, pensez aux campagnes napoléoniennes d'Italie et d'Égypte, qui n'avaient pas d'autres fonctions, un historien me corrigera peut-être, mais de remplir le Louvre, mais pensez aussi aux récentes affaires de trafic d'antiquités qui embêtent l'ancien président du Louvre actuellement. Donc si l'on s'est longtemps accommodé des pillages qui ont rempli nos musées, c'est que, se disait-on, plus ou moins consciemment, les civilisations qui furent ainsi spoliées appartenaient déjà au passé. Donc pourquoi venons-nous au musée en effet ? Si ce n'est pour contempler, parmi tant d'œuvres merveilleusement conservées, notre victoire sur l'histoire. L'histoire peut être désormais paisiblement, pacifiquement exposée, figée dans ses œuvres, congelée, disait Paul Valéry dans un texte qui s'appelle « Le problème des musées ». Et ainsi l'histoire était suspendue. Le touriste dans le musée peut faire le tour de l'histoire. C'est même ce que fait un touriste, c'est que le touriste n'est possible que parce que l'histoire est interrompue et qu'on peut paisiblement faire le tour grâce à un tour opérateur. Et là, des militants arrivent qui balancent de la sauce tomate. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'au déracinement des pièces de musée, ces militants opposent le nécessaire enracinement des hommes. Face à la supposée fin de l'histoire, ces militants dressent une possible fin du monde. À la volonté de conserver la culture comme marque du passé, ces militants opposent l'urgence de conserver la nature comme condition de l'avenir. Alors, qu'ai-je fait moi-même de mon éco-anxiété, contractée donc à 8 ans ? D'abord, j'ai été tout à la fois, comme notre époque, non pas touriste parce que je n'avais pas les moyens, mais catastrophé et festif. En un mot, nihiliste, et puis à l'époque, pendant bien longtemps, batteur de rock. En fait, je voulais arracher à la nuit qui vient quelques cris. Voilà. Et puis, je me suis converti. Et par la foi chrétienne, j'ai pu mettre mon éco-anxiété, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, en perspective d'une nouvelle conception du monde. Plus précisément, j'ai pu plonger la fin du monde dans une autre fin du monde. J'ai pu envelopper Tchernobyl et Hiroshima dans Jérusalem. Car la foi, c'est son premier article, confesse que le monde est créé par le Père Tout-Puissant. Cela m'a d'abord donné le sens de l'heureuse contingence des êtres. Vous voyez, je suis, vous êtes, ils sont à ma droite et à ma gauche, et ils auraient pu ne pas être. Le monde a été créé, ça veut dire d'abord que le monde est profondément gratuit, c'est gratis. Cela m'a donné le sens du caractère bariolé des créatures. Il y a tant et tant à contempler, il y a plus à aimer et à connaître dans ce monde que nous ne pourrons jamais. Bref, j'ai vécu l'inversion du schème grec. Vous savez, pour les Grecs, vous avez Chronos. Chronos, c'est le temps. Il est sempiternel, c'est-à-dire il a toujours déjà été, il sera toujours. Il y a le Chronos qui s'écoule comme ça et qui comprend de temps en temps Kairos. Kairos, c'est l'événement. Vous avez un temps comme ça, continu, qui de temps en temps comprend tel ou tel événement, je ne sais pas, Alexandre qui suit les cours d'Aristote, César qui franchit le Rubicon, etc. Avec le christianisme, il se passe quelque chose de révolutionnaire. C'est Kairos, l'événement, qui contient Chronos. C'est-à-dire, le temps n'est pas sempiternel, le temps n'a pas toujours été. Le temps s'est mis à être. Le monde tient au fiat de Dieu. Son arché, ça veut dire son principe, hein, enarché au commencement, son principe est commencement et commandement, que cela soit. Si vous voulez, dans le temps grec, et souvent on est grec, comme ça, il y a un temps comme ça, un agenda, avec nos projets, et puis de temps en temps, il y a des projectiles qu'on essaye d'éviter le plus possible. Dans la vie chrétienne, c'est tout l'inverse. La vie chrétienne, vous êtes vous-même un projectile. L'univers aurait pu ne pas être, il aurait dû ne pas être à la limite, mais il est là. Et dedans, on essaye de faire quelques projets. Et, découverte extraordinaire, la fin du monde aussi est un kairos, est un événement. Nous vivons, quand nous sommes chrétiens, nous vivons dans l'attente, même qu'on formule explicitement à la messe, « Viens Seigneur Jésus », nous vivons dans l'attente du retour du Christ. Nous vivons dans l'imminence d'un retour. Imminence d'un retour qui est aussi, en même temps, chaque jour, l'irruption du Christ dans le visage qu'on croise du prochain. La figure de ce monde passe, disait saint Paul, vous connaissez. Et il nous dit ça, pourquoi, dit-il, « Je vous dis cela afin que vous soyez sans souci, afin que votre joie soit parfaite. » Et saint Paul, nous disant ceci, la figure de ce monde passe, il nous invite à user des biens de ce monde, je cite, je crois, la première lettre aux Corinthiens, « user des biens de ce monde sans en abuser, bref, à jouer le jeu de ce monde sans se prendre au jeu. » Car quelque chose de cette figure du monde ne passe pas, mais demeure. Les gestes posés par amour, et qui, parce qu'ils sont posés par amour, appartiennent déjà à Dieu, ces gestes qui sont Dieu, et qui seront, par lui et en lui, récapitulés à la fin des temps. Ce que m'a apporté ma conversion, je vous l'ai dit, c'est de plonger la Tchernobyl terrestre dans la Jérusalem céleste. Je reviendrai en conclusion à cet immense pas de recul par rapport à mon éco-anxiété. Un pas de recul si grand qu'il ressemble au saut de la foi et à une sorte de salto arrière comme ça. Et avant d'en venir là, je voudrais vous proposer un pas de recul bien moindre qui ne va pas absoudre le monde et ses peurs dans la grandeur de Dieu, mais qui va mettre plus simplement en perspective la fin du monde par rapport à notre héritage récent, à savoir la modernité. Parce que voici le parti pris de mon propos, qui est peut-être à rebours du titre choisi pour cette université d'été, à savoir « Fin d'un monde » ou « Fin du monde ?» point d'interrogation. Enfin, je vais honorer ce point d'interrogation, car je ne crois pas qu'il soit pertinent de nuancer la fin du monde par ce syntagme, par cette formule rassurante « fin d'un monde ». Car si ce n'est qu'un monde qui finit, et non pas le monde, ben est-ce qu'on vraiment va parler du monde ? Est-ce qu'on va parler, si vous voulez, si c'est pour parler de fin d'un monde, est-ce que c'est intéressant de mobiliser le concept de monde ? Le monde, ça veut dire l'ensemble unifié, harmonisé pour les Grecs, des faits, l'ensemble unifié des phénomènes. Si l'on dit que ça n'est la fin que d'un monde, tout à coup, le sens de ce qui nous réunit ici perd de sa profondeur et de sa gravité. Au fond, si ça n'est que l'un des mondes plus ou moins grands, qui jouit d'une plus ou moins grande autonomie, qui voit la fin, est-ce si intéressant ? Ainsi, on est là pour dire que les civilisations sont mortelles, mais qu'elles n'emportent pas dans la mort la civilisation, est-ce si grave ? Ainsi, ce n'est que la fin d'un monde, le nôtre, mais que le monde, lui, se porte bien, alors qu'importe ? Nous dirons, nous allons dire simplement que le monde, comme on l'entend déjà, et sans doute à juste titre, que le monde a changé de centre, qu'il se déplace en Afrique ou en Inde, et que, certes, la chrétienté occidentale s'éteint, mais que non seulement nous l'avions remarqué, mais nous remarquons aussi que la chrétienté n'est pas synonyme de christianisme et que le christianisme, lui, se porte plutôt bien dans le monde. Donc, voici quel sera plus précisément notre angle, mon angle d'attaque. D'abord, nous vivons bien dans ce que Anders, Günther Anders, nommait, suite à la fabrication de la bombe A, donc suite à la possibilité d'une extinction de la vie humaine sur Terre, nous vivons bien dans le temps de la fin. Nous vivons bien dans le temps de la fin. Nous vivons cette époque en quatre sens, que je vais vous exposer dans ma deuxième partie, quatre sens de fin du monde qui tous tiennent à l'acte de naissance de notre modernité. Donc, non pas la fin d'un monde, mais la fin du monde, universellement, mais fin du monde que je voudrais rapporter à ce qu'est notre monde particulier, en tant que ce monde occidental fut le monde moderne. Voilà. C'est-à-dire que je vais essayer de penser la fin du monde, mais à partir de ce qui s'est passé dans notre monde particulier et qu'on a appelé la modernité. Alors pourquoi la modernité ? Eh bien revenons un dernier instant avant de passer à la deuxième partie, revenons au musée et à son opération originelle de ce qu'on a appelé la démondanisation des œuvres qu'il expose. On les a privées de monde, le masque funéraire de Toutankhamon, la momie, on les a privées de site pour les exposer dans des salles correctement réfrigérées. Donc revenons au musée à son opération de démondanisation des œuvres, œuvres qu'il expose pour que le touriste en fasse paisiblement et pacifiquement le tour sous le jour doux et clément de la fin de l'histoire. Revenons au musée et notamment à celui qui m'a inspiré cette virulente déconstruction du musée, à savoir le penseur français Jean-Louis Déhotte, D-E-O-T-E. Jean-Louis Déhotte, dans Le musée, l'origine de l'esthétique, écrit ceci. L'art du musée est intrinsèquement un art de l'apocalypse. Il rend concevable un art pour lequel le monde ne serait plus nécessaire. En effet, vous voyez, la momie décelée, la momie arrachée à son lieu de culte, peut-être le passé l'avait-il déjà arrachée, puisqu'on ne savait plus trop ce qu'elle signifiait et qu'un archéologue est venu nous le dire, mais c'est aussi les biens de l'Église qui tout à coup se trouvent exposés hors du site où ils étaient des lieux de piété. En disant ceci, Jean-Louis Déhotte se fait écho de Heidegger, qu'il cite, Heidegger qui disait « Le mode de représentation muséale nivelle tout dans l'uniformité de l'exposition. Là, il n'y a que des places, mais il n'y a plus de sites. » Il n'y a plus de sites, il n'y a plus que des places avec des étiquetages. Or, ce même Jean-Louis Déhotte a cette formule qui m'a récemment frappé, et qui va être la ligne directrice de mon propos et donc de ma deuxième partie. Jean-Louis Déhotte disait « L'hypothèse apocalyptique de la fin du monde. L'hypothèse apocalyptique constitue la structure de la modernité, sa tension productrice, sa matrice. L'hypothèse apocalyptique constitue la structure de la modernité, sa tension productive, sa matrice. Et en effet, ça va être le fil de mon propos, c'est ma deuxième partie, en quatre temps. Je vais prendre quatre grands noms de la modernité, à savoir Descartes, Galilée, Hobbes et Locke, et je vais vous montrer comment chacun va fonder son itinéraire de pensée sur une apocalypse, une fin du monde. Une apocalypse au sens païen du terme, on pourrait dire, sur la mise entre parenthèses, si on est gentil, voire l'anéantissement du monde. Et donc c'est assez facile à vous pour mémoriser, comme une table, il y aura quatre pieds, sauf que ces quatre pieds qui n'ont pas construit une table sur laquelle nous reposer, mais quatre pieds qui dessinent le périmètre de notre abîme et de l'abîme que nous vivons actuellement. D'abord Descartes dans son poêle, Descartes dans cette petite bicoque où il s'était reposé pour être libre de tout souci, nous dit-il, et étant libre de tout souci, ayant appris beaucoup de choses qu'il avait remarquées être fausses, il s'est décidé de douter de tout. De douter de tout pour voir si, parmi ses opinions, il y en avait une qui résisterait à son doute radical, une qui serait absolument et certainement vraie. Donc ça, c'est les méditations métaphysiques de Descartes, dont je vous conseille la lecture, c'est une expérience extraordinaire. Et en effet, Descartes, dans la première méditation métaphysique, Husserl le dira, il met en époquée le monde, il met entre parenthèses le monde, il suspend la thèse du monde, il doute de l'existence du monde, hein, de l'existence de ce qu'il a sous les yeux. Il a l'argument du rêve, d'abord l'argument du fou, puis l'argument du rêve, puis l'argument du dieu trompeur, puis la fiction du malin génie. Bref, Descartes, doutant de tout, en arrive à la certitude toutefois qu'il est. Je suis, j'existe. Hein, il dit, cette proposition « je suis, j'existe » est absolument certaine toutes les fois que je la prononce ou simplement que je la conçois en mon esprit. Je suis, j'existe. C'est-à-dire que vous pouvez douter de tout, sauf du fait que vous doutez au moment où vous doutez. C'est-à-dire, quand bien même le monde n'existerait plus, vous aurez encore la certitude que vous existez puisque vous poserez la thèse que le monde n'existe plus. Je suis, j'existe. D'accord ? Husserl, qui était un grand commentateur de Descartes au XXe siècle, disait que le sujet moderne se définit comme un résidu de négation du monde. Residuum der Weltvernichtung, c'est-à-dire résidu de négation, d'anéantissement du monde. Et en effet, Descartes, finalement, pose sa propre existence indépendamment de l'existence du monde, indépendamment de l'existence d'autrui. Descartes, c'est un jeu sans tu. Jean-François Lyotard, un intellectuel français, écrivait dans Lecture d'enfance « L'échec de la pensée cartésienne ou husserlienne dans l'élaboration des problèmes du temps et d'autrui résulte du philosophème aberrant qu'est le cogito de point un jeu sans tu, un jeu J-E sans tu. » D'accord ? Pour Jean-François Lyotard, c'est complètement fou qu'on ait pu penser « je suis, j'existe » indépendamment de toute attestation par autrui. Voyez bien l'enfant. L'enfant, c'est quelqu'un qui dit en permanence, le bébé, c'est très frappant, « toi, 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 le, toi, toi, le, voilà, toi la lueur du jour, toi, toi, le bibelot au-dessus de ma tête, toi, 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 le regard de parent, toi, le grand frère, etc. » Et il n'arrive à lui, il n'arrive au moi, que parce que dans tous ces « toi », le reflet de la vitre sur le plafond. Dans tous ces toits, il y en a de temps en temps quelques-uns, à savoir le regard qu'on pose sur lui, qui lui disent « oui, mais et toi ?» Ça n'est que secondairement par le truchement d'un autre toit que l'enfant arrive au « moi », qu'il sorte de son extase pour conquérir sur cette extase une part d'intériorité. Parce que dans tout ce qu'il croise, il croise un regard qui le regarde. C'est comme ça que nous devenons nous-mêmes. Or, Descartes, fondateur parmi d'autres de la modernité, eh bien, lui atteint le jeu en ayant mis, entre parenthèses, le monde. Il oublie même qu'il parle Descartes. C'est Louis de Bonald, un philosophe contre-révolutionnaire, donc il en avait gros à la fois contre Descartes et contre Rousseau, mais qui faisait cette remarque très très intéressante que Descartes avait douté de tout, certes, vraiment c'est très très fort, si vous lisez au moins les trois premières méditations cartésiennes, c'est très puissant. Descartes doute de tout, sauf du fait qu'il parle. Or, parler, c'est quoi ? Eh bien, c'est se recevoir d'un monde. On ne parle qu'à partir d'une langue dans le bain duquel nous avons été. On ne parle qu'à partir d'un monde. Or, Descartes met entre parenthèses le monde. Il croit qu'il peut douter du monde. C'est simplement qu'il a oublié de parler. Et l'oubli, nous disait Heidegger ou Hannah Arendt, son élève, l'oubli est un trait frappant de la modernité. Chez Heidegger, c'est l'oubli de l'être. Chez Hannah Arendt, c'est l'oubli du politique. C'est l'oubli de ce qu'elle appelle l'entre-deux. C'est l'oubli que nous dépendons nécessairement les uns des autres et que de temps en temps, comme dans l'expérience du maquis, tout à coup, on sort de notre vie bourgeoise et l'on s'en souvient. Descartes, c'est quoi ? C'est un être qui, par un acte performatif, c'est-à-dire par un acte de langage, se tire seul hors du néant. un acte performatif. Peut-être je reviendrai là-dessus. Je vais essayer de tenir le temps parce que j'aurai plaisir à ce que nous échangions. Descartes, premier jalon de notre modernité, première apocalypse, première fin du monde. Deuxième fin du monde, Galilée. Je vais aller assez vite, mais on pourra revenir là-dessus. Galilée, c'est la science, fondateur de la science moderne, on l'appelle ça comme ça, et penseur d'un monde qu'on pourrait dire acosmique, sans cosmos. Galilée, ce qu'il comprend, c'est que s'il veut isoler les lois de la nature, il faut qu'il fasse des expériences, comme il est dit, en vase clos. C'est-à-dire des expériences lors desquelles on fait abstraction à la fois du milieu, du monde où les objets chutent, par exemple, et du sujet qui observe ou qui vit, par exemple, la chute de cet objet. Le but, c'est de créer un vase clos où règne l'objectivité et où la loi de la nature qu'on veut mettre au jour, et c'est exactement comme ça que fonctionne la science depuis Galilée, soit isolée. Galilée, c'est une fin du monde aussi, donc non seulement parce que l'expérience est en vase clos, elle fait abstraction et du milieu et du sujet, mais c'est aussi l'hypothèse qu'il fait d'un livre. La nature, il dit, est un livre perpétuellement ouvert sous nos yeux. Il est assez simple de lire en elle dès lors qu'on sait qu'elle est écrite en langage mathématique, dit-il. C'est-à-dire que toutes les lois de la nature, nous allons les énoncer en langage mathématique. Un philosophe suisse, Yann Marechko, appelait ça la modernité halogale, la modernité privée de logos, privée de parole. Parce que, disait-il, le monde, le cosmos ou l'univers galiléen est extrêmement angoissant parce que c'est un univers qui parle déjà, mais qui parle sans nous, les lois de la nature sont écrites en langage mathématique, et qui parle une langue qui ne s'adresse pas à nous. Cet univers, même si l'homme n'existait pas, même si les poètes n'existaient pas pour prendre dans leurs vers la beauté de l'arbre, la beauté du visage, même si aucun esprit n'existait pour le ressaisir, cet univers ne s'en porterait pas plus mal, il continuerait de se parler tout seul la langue qu'il parle, le langage mathématique. Un fin du monde aussi, Galilée, je pourrais vous en parler des heures, mais en ce que partout, et nous le vivons, partout le lieu est remplacé par une nouvelle conception de l'espace. Le lieu est remplacé par l'espace, l'espace est défini par Galilée comme une étendue indéfinie sur laquelle viennent s'inscrire des mouvements géométrisables. Une étendue indéfinie sur laquelle viennent s'inscrire des mouvements géométrisables, c'est pas du tout notre expérience intime du lieu. Le lieu n'est pas. Le lieu, c'est ce dans quoi on rentre. Vous voyez, rentrer dans une chapelle, rentrer dans une salle de classe, aller à la prairie manger. Ce sont des lieux qui sont marqués symboliquement par un sens et par une fonction, mais toujours par un sens. Or, avec Galilée, le lieu n'est plus. Seul est l'espace, et on le voit même dans notre inscription urbaine, le parking devient la vérité de l'urbanité et le Airbnb de nos villes. Des places sur lesquelles viennent s'inscrire des mouvements algorithmiques. Bon, vous voyez, la définition de l'espace chez Galilée, c'est celle du parking, hein, étendue indéfinie sur laquelle viennent s'inscrire des mouvements géométrisables. Et d'ailleurs, nous assistons à une multiplication des zones aujourd'hui, des ZAC, hein, des ZEP, etc. Galilée, c'est aussi le monde objectivé, mais je vais passer à mon troisième nom propre, Thomas Hobbes, 17e siècle lui aussi, hein, comme les deux autres. Thomas Hobbes est le penseur de la politique moderne. C'est le plus grand penseur, c'est le fondateur moderne de la politique telle que nous l'entendons. Or, par quoi ça commence, Thomas Hobbes, dans le Léviathan ? Eh bien, par une fiction, l'état de nature. Qu'est-ce que c'est que l'état de nature ? Eh bien, c'est une fin du monde. C'est-à-dire que Hobbes dit, si vous voulez penser la chose politique, imaginez un monde où il n'y a que des individus isolés qui disposent d'un quantum de puissance indéfini, c'est-à-dire ils sont portés à l'existence, ils vont tout faire pour la conserver, et ces individus isolés eh bien, se font une guerre permanente de tous contre tous. L'homme est un loup pour l'homme. C'est connu. Voilà, au fond, la meilleure stratégie dans un monde où chacun lutte pour sa propre survie étant l'attaque, eh bien, tout le monde vit dans la peur. Jusqu'à ce que chacun délègue son pouvoir d'être violent à une structure supérieure, le Léviathan, l'État moderne avec un E majuscule. C'est-à-dire que le seul moyen d'obtenir la paix, c'est le renoncement collectif par contrat à la violence que nous pouvons appliquer, de telle sorte que si quelqu'un récupère son pouvoir d'être violent, immédiatement les institutions étatiques de ce pays le lui reprendront violemment. Car Thomas Hobbes dit « l'État, ce n'est pas la fin de la violence, c'est juste la concentration de la violence qui est en nous dans une seule instance ». On pourrait dire que l'État contient la violence, au double sens de lui offrir une contenance, mais aussi au sens où c'est lui qui l'a. Bon. Or, Thomas Hobbes, ce qui est extraordinaire, c'est que son mythe, c'est l'antimythe, si je puis dire, de la Genèse. C'est l'anti-Genèse. Dans la Genèse, au contraire, vous avez un Dieu qui, pour que les éléments soient en relation, eh bien, sépare ces éléments-là. C'est un Dieu qui met de la relation partout, qui fait entrer comme ça son éclair dans le tohu-bohu pour séparer les éléments et que même à la fin, hommes et femmes puissent être en relation. C'est la relation qui prime et finalement, ce que nous nous donnons prioritairement, primordialement, tout au long de la Bible, ça n'est pas la mort comme chez Thomas Hobbes, c'est la vie. Chez Thomas Hobbes, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de donation de vie, mais il y a toujours possiblement une donation de mort. Avec Thomas Hobbes, nous ne sommes plus mortels. Ça, c'est très important parce que l'être humain, depuis Parménide et depuis quelques psaumes, un des synonymes, c'est les mortels. On a ça en français quand on dit le commun des mortels. C'est un synonyme d'être humain. Mais avec Hobbes, on devrait dire nous ne sommes pas les mortels, nous sommes les tuables. Si vous n'y prenez garde ou si vous vivez sans état, vous serez un jour tués. Tous les mythes finissent par devenir vrais. La Genèse a fini par devenir vraie. Nous avons fini par vivre dans un monde où nous pensions que la relation était un bienfait. Mais Hobbes a pris le pas au commencement de la modernité et nous avons fini véritablement par vivre en état de nature. Vous avez un philosophe italien qui s'appelle Roberto Esposito, que, avec mon ami Pierre Dulot, nous citons dans « Faire face », notre livre sur le visage et la crise sanitaire, parce que les travaux d'Esposito qui datent d'il y a 20 ans ont tout à coup une actualité extraordinaire dans « Communitas », qui est un livre sur le Léviathan de Thomas Hobbes, et un livre très critique. Dans « Communitas », Roberto Esposito expose l'étymologie du mot « communauté ». Il dit « communauté », ça vient du latin, évidemment, c'est la mise en commun, « co », d'un « munus ». Or, c'est quoi le « munus » des latins ? Il dit « le munus des latins », c'est une dette, mais c'est une dette d'un genre tout particulier, car c'est une dette qu'on ne peut pas payer en rendant à notre débiteur, mais en donnant à d'autres que nous. C'est exactement la dette qu'on a contractée avec nos parents. Quand on sent que nos parents nous ont aimés, eh bien, on a envie, nous-mêmes, d'avoir une vie féconde, d'avoir des enfants, par exemple. En tout cas, d'avoir une vie qui a de la gueule et une vie qui porte du fruit. Et c'est comme ça, c'est pas en leur rendant la vie qu'ils nous ont donnée, c'est pas en se suicidant qu'on payera la dette, mais en donnant à notre tour parce que nous avons beaucoup reçu. Et Roberto Esposito, d'ailleurs, qui est un philosophe certes italien, mais quand même pas chrétien et pas catholique, et plutôt à l'extrême gauche, il disait que l'exemple parfait de communauté, de munus en commun, c'est la communauté chrétienne, parce que c'est une communauté qui est fondée déjà sur le don de l'être, le don gratis de la création, et sur le pardon des péchés. Et qui, d'ailleurs, dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses ou remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi à ceux qui ont des dettes envers nous. C'est-à-dire, le meilleur moyen, ça n'est pas de rendre, c'est de devenir soi-même une circulation d'amour. Or, quel est le contraire de communauté ? C'est immunité. C'est l'immunité collective, nous dit Roberto Esposito il y a 20 ans. Et il dit ceci, que l'immunité, le fait qu'on demande à l'État de nous protéger de notre voisin, car ce qu'on se donne d'abord, ça n'est pas la vie, mais la mort, eh bien cette immunité est la vérité de la conception moderne de la politique. Dernier pilier, je vais un peu vite, hein, mais on pourra creuser après si vous voulez. Dernier pilier, il s'appelle John Locke. Là, on est entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et ça n'est pas l'État comme chez Hobbes. Ça n'est pas la science comme chez Galilée. Ça n'est pas le sujet autonome comme chez Descartes. C'est le marché. Vous avez un gros livre de David Graeber qui s'appelle « La dette, 5000 ans d'histoire ». Et ce livre m'a déniaisé sur l'hypothèse du troc qui, alors le troc a avait déjà été thématisé par Aristote, mais il y a un vrai mythe du troc à l'orée de notre modernité, mythe du troc selon lequel eh bien, nos échanges de biens auraient toujours d'abord été économiques et intéressés. Et que la monnaie est venue, eh bien, beaucoup plus pratique que le troc. Hein, si vous faites des chaussures, vous en avez, voilà, vous pouvez pas vous payer un piano à queue en donnant à une personne 48 paires de chaussures, car elle n'a jamais que deux pieds. Et donc, il faut la monnaie pour pouvoir mieux échanger, etc. Or, en quoi y a-t-il mythe du troc ? Eh bien, il y a mythe du troc en tant que les anthropologues nous apprennent que, en réalité, ça n'a pas commencé par le donnant-donnant sur le mode utilitariste ou sur le mode économique intéressé, mais que tout a commencé sur le mode du don qui appelle un contre-don, mais qui appelle un contre-don qui n'est pas forcément ce qu'on a donné et dans le temps où on l'a donné. Un peu comme ce que je vous disais avec la co. Communauté. Et surtout, avec cette, si vous voulez, anthropologiquement, quand on voit les peuples, il y a cette dimension qui est alimentée par le mythe, qui nous raconte surtout qu'on a toujours déjà reçu de plus loin que nous, et donc que nous sommes fondamentalement, envers nos proches, des donateurs, sans qu'il y ait un équilibrage nécessaire de l'échange par ce qu'on appelle le marché. Et qu'est-ce que c'est que le marché ? Qu'est-ce qu'est devenu le marché ? Eh bien, le lieu de l'interchangeabilité totale. Le marché est en fait l'espace galiléen appliqué à l'économie, un espace pareil, sans lieu, sans seuil, sans valeur, sans densité, sans visage, sans personne, un lieu d'échange pur où les choses ne peuvent arriver là que si, comme dans le musée d'ailleurs, elles sont démondanéisées. Le marché aussi est une fin du monde. Dans Faire face, on s'interroge sur la perte du visage sous le masque sanitaire et dedans, je me suis permis quelques pages sur cette chose horrible qui vous arrive peut-être parfois, qui est l'appel masqué, qui vous met en ligne avec quelqu'un qui n'a pas choisi de vous appeler, celui qui est sur une plateforme, c'est pas lui qui passe les appels, dès qu'il a raccroché un appel et lancé à sa place. Donc, on est mis en commun vraiment par l'espace du marché, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas vous parler est mis en demeure de vous parler pour vous vendre quelque chose qu'il ne veut peut-être pas vous vendre à vous qui n'avez pas le temps pour lui. Et voilà, et le jour où j'ai compris que plus l'appel durait longtemps, mieux ils étaient payés. Maintenant, je leur passe tous les enfants, je les bénis mille fois, etc. Mais à part ça, c'est quand même un appel masqué, c'est-à-dire un appel sans visage. C'est un philosophe français, Gérard Granel, qui disait « Le même rapport d'abstraction et de fin du monde peut aussi bien s'analyser comme règne du capital selon Marx que comme règne de l'essence de la technique moderne selon Heidegger. » Voilà, je m'arrête là. D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse par rapport au marché. Regardez comment même le Christ attaque cette idée de donnant-donnant. Moi, récemment, je me suis rendu compte, au moment de l'envoi des 72, c'est ce moment où il a cette phrase, on pourrait dire très économique, tout travail mérite salaire. Ah bah oui, bah ça c'est, ouais, on est quand même dans la logique de Hobbes, voilà, j'ai travaillé, tu me dois un salaire. Sauf que quand vous regardez le contexte, c'est Jésus qui en envoie 72, il leur dit prenez ni tunique, ni sandales, ni rien. Enfin, chez Marc, il faut prendre des sandales, mais pas chez Matthieu et chez Luc. Donc allez-y, pas de tunique de rechange quand même, une tunique, mais et allez, dites paix sur cette maison. Et s'ils n'en veulent pas, c'est pas grave, que cette paix rejaillisse sur vous. Et s'ils en veulent, entrez. Et s'ils vous donnent à manger, mangez, car tout travail mérite salaire. Vous êtes là, ouais, mais c'est quoi leur travail au juste ? Bon, si ce n'est d'aller avec au cœur la joie du Seigneur. Donc vous voyez, même le Christ, qui présentait d'ailleurs le royaume des cieux comme un voleur, vient bouleverser ce mythe du troc, qui est aussi un mythe fondateur de notre modernité, le marché, l'État, la science et le sujet, chez Descartes, qui sont en réalité quatre fins du monde, qui faisaient que Rimbaud, dans Une saison en enfer, pouvait bien dire « La vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde ». Quels sont les éléments, et c'est ma dernière partie, ma partie conclusive, quels seraient les éléments d'une réponse chrétienne ? Je crois que le point commun entre ces quatre apocalypses, ces quatre fins du monde au fondement de notre modernité, et dont nous voyons actuellement les conséquences matérielles, j'ai envie de dire, le point commun de ces quatre apocalypses, c'est qu'elles sont à chaque fois une maladie du don. Une maladie du don. Descartes se pose tout seul. Il est comme le baron de Münchhausen. Vous savez, le baron de Münchhausen se noie et à un moment donné, il a le réflexe, il s'attrape par sa petite couette, comme c'était à la mode, et il se tire de l'eau tout seul. Comme Descartes, au moment où il doute de tout, eh bien, performativement, comme Judith Butler performativement dit, si je dis que je suis une femme, je le suis, quelle que soit mon assignation de genre, eh bien, performativement, Descartes se tire du néant, je suis, j'existe, tout seul. Du moins, le croit-il, puisque en réalité, il fait usage d'une langue. Voyez, maladie du don aussi chez Galilée. À partir de Galilée, la science va consister, Kant le dit très bien dans la préface à la seconde édition de la Critique de la raison pure, qu'est-ce que fait un scientifique? Il force la nature à répondre à ses questions. La nature est écrite en langage mathématique, mais elle ne le sait pas elle-même, et il faut un scientifique pour, par le protocole expérimental, la forcer cette nature à répondre à ses questions. On est loin de la sympathie qui était finalement un des moyens d'enquête et qu'on va retrouver après le XXe siècle avec Bergson ou la phénoménologie. Mais la sympathie, cette consonance, ce consentiment avec le monde qui pourrait être aussi une piste pour connaître le monde. Hobbes, maladie du don aussi. Nous ne sommes plus mortels et donc confiés les uns aux autres dans le soin. Nous sommes tuables et dans un régime de méfiance absolue. Nous sommes démortalisés pour devenir tuables. Ça m'avait marqué pendant la crise Covid. Il y avait un fait divers malheureux sur 21 frères en Vendée. 7 étaient morts la même semaine. Alors article dans La Croix, article dans Famille Chrétienne, qui disent, mais voilà, le Covid tue, mine de rien, sur 21 frères, 7 sont morts la même semaine. Et puis, il déplorait ses morts. C'était d'autant plus dommage qu'ils venaient tous de recevoir leur deuxième dose. Alors, courrier des lecteurs, qu'évidemment, il fallait aller voir dans Famille Chrétienne, « Mais c'est le vaccin qui les a tués !»« Mais non, c'est le Covid et c'est vous qui les tuez, etc. » Bon, quand on regardait l'âge de ses frères, ils avaient tous entre 90 et 99 ans, pour deux d'entre eux. On avait envie de dire qu'ils étaient morts peut-être d'abord parce qu'ils étaient mortels. Mais la démortalisation de l'être humain fait que, si on n'est plus mortel, c'est nécessairement quelqu'un qui nous a tués. Soit le vaccin, soit celui qui ne sait pas laver les mains correctement. Et enfin, maladie du don, chez Locke évidemment, avec la marchandisation de toutes choses et surtout l'incapacité de penser la gratuité. Ça va être très très fort au XIXe siècle, un siècle utilitariste. Et je vous conseille, si vous avez le temps, de contrebalancer votre Darwin par Adolf Portmann, grand biologiste génial du XXe siècle qui a étudié tous les phénomènes de gratuité dans le comportement animal, qui a montré que, certes, si l'insecte, c'est un peu une machine de guerre, si l'insecte est, dans son corps qui manque un peu de chair, une sorte de combinaison parfaite pour survivre à son milieu, eh bien, dès que vous avez un peu de chair, qu'est-ce que vous avez? Et peut-être chez l'insecte lui-même, des comportements gratuits. Les oiseaux, le matin, ils chantent et ça ne sert à rien, si ce n'est à l'exultation, à la prononciation de soi. C'est de l'échéité scotiste. Les oiseaux qui chantent disent « me voici ». Et c'est vrai aussi des animaux qui jouent. Ça sert à rien et ça existe. Quelle peut être la réponse chrétienne? Ça va être mon envoi et ma conclusion. Et je vais vous les donner en piste. Et comme ça, si vous voulez, je pourrais creuser ceci ou cela. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en pensez, vous. J'avais imaginé, mais j'ai déjà trop parlé, j'avais imaginé 5 pistes pour habiter cette fin du monde. Et déjà, avec cette idée, ça va être ma conclusion, que si ces 4 fins du monde sont des maladies du don, il serait trop dommage que nous, face à notre modernité, eh bien, nous ne comprenions pas qu'elle aussi est un don. Et que cette fin du monde actuelle est aussi quelque chose que nous pouvons élucider comme un don, que nous n'avons pas à nous crisper face à cette modernité. Et d'ailleurs, Rimbaud disait un peu plus loin, dans Une saison en enfer, il faut être absolument moderne, au sens peut-être où c'est une chance à saisir. C'est une chance à saisir et c'est une chance pour nous d'annoncer à cette éco-anxiété galopante que oui, on peut envelopper Tchernobyl sans la nier dans Jérusalem et envelopper la Tchernobyl terrestre dans la Jérusalem céleste. Et pour moi, il y aurait 5 sens, et je vous les donne très rapidement. Cinq sens, comme nos cinq sens, cinq sens que nous ouvre la fin du monde telle que la modernité nous y a universellement précipité. Parce que, je ne sais pas si je l'ai fait assez sentir, mais dans le parti pris de Descartes, vous avez l'individualisme et vous avez ces solitudes et même cette logique concentrationnaire qui fait que on crève dans les EHPAD. Chez Hobbes, vous avez le démon totalitaire. Chez Galilée, vous avez la bombe atomique. Je vais un peu loin. Chez Hobbes, vous avez la surexploitation de nos ressources et toutes les mauvaises réponses qu'on voudrait lui opposer. Mais qu'il y a bel et bien une catastrophe, mais que nous avons peut-être une manière de l'habiter. Cinq sens qui s'ouvrent. Le sens de la gratuité. Et là, je vous invite juste à lire donc, le chapitre 7, vers les versets 27 à 30 et quelques, chapitre 7 de la première lettre aux Corinthiens de saint Paul, hein, c'est magnifique, hein, la figure de ce monde passe, que désormais vous preniez femme sans la posséder et pleuriez sans vous accabler et vous réjouissiez sans triompher et achetiez des biens comme s'ils ne vous appartenaient pas, usez du monde comme n'en usant pas, afin que votre joie soit parfaite. Sens de l'honneur aussi peut-être, fin du monde, mais vous savez, les histoires commencent par « il était une fois », car on ne sait la première fois d'une histoire que si cette histoire a déjà eu lieu et qu'on peut la raconter. On ne sait la première fois qu'au bout de toutes les autres fois, et que si cette première fois est la foi de toutes les autres fois, et donc sens de l'honneur, à nous chrétiens, il revient d'avoir la tête haute et de poser tous les actes de charité aujourd'hui qui feront que cette « il était une fois du monde », eh bien, ce soit le « il était une fois d'une grande histoire ». Sens de la pauvreté. Sens de la pauvreté. Il y a un cycle très intéressant en art, c'est que quand on va vers un maximum de complexité, tout à coup, une décision est faite de vivre simplement, sans qu'on ait à la forcer et sans qu'on ait à rendre les générations malades et coupables d'exister. Très spontanément, si vous voulez... À un moment donné, Beethoven, il excelle tellement qu'il compose ce mouvement très très simple de la sonnette au clair de lune que vous connaissez. Une fois que vous avez eu Liszt, eh bien vous avez des choses beaucoup plus simples qui se font. Ou une fois que vous avez eu Deep Purple et je ne sais quel groupe de hard rock qui était capable de faire des solos. Eh bien vous avez le punk qui arrive. C'est-à-dire à chaque fois et quand vous avez voilà le phénomène extraordinaire de la scolastique. Vous avez un mouvement beaucoup plus simple qui fait suite théologiquement. Sens de la pauvreté. La pauvreté est notre chance. Des pauvres, vous en aurez toujours. En réalité, cette phrase n'est pas une condamnation, c'est une chance. Nous serons toujours assez pauvres pour échapper au transhumanisme. Nous serons toujours assez pauvres pour échapper à ce rythme effréné qu'on voudrait nous voir adopter. Je vous donne une citation de Cormac McCarthy dans La Route, qui est un roman, qui est un chef-d'œuvre, et qui raconte l'itinéraire. On a à la fois Descartes, Galilée, Hobbes et Locke, l'itinéraire d'un père et de son fils dans un paysage post-apocalyptique. Plus rien ne tient, et pourtant l'espérance, elle est maintenue. Et à un moment donné, Cormac McCarthy écrit. Cormac McCarthy qui est mort il y a 2 mois peut-être, ils étaient tous déchauds, voyez, sans chaussures, sans sandales, jusqu'au dernier comme des pèlerins d'un ordre inférieur, car toutes leurs chaussures avaient été depuis longtemps volées. L'humanité dans cette fin du monde est déchaud, mais vous savez, ne pas avoir de sandales, c'est ce que demandait le Christ, parce que enfin le royaume des cieux touchait terre. Il nous est donné peut-être de mieux toucher terre. La pauvreté, écrivait Giorgio Agamben, être pauvre, disait-il, c'est être en relation avec un inappropriable. Dès lors que ce monde s'est révélé par nous inappropriable, eh bien, il nous invite à une relation plus simple avec lui. Sens de la crainte aussi, quatrième des sens que cette fin du monde ouvre. Je vous renvoie à mon dernier livre, Dieu après la peur. Le sens de la crainte, c'est le sens de l'imminence du retour du Christ. C'est le kairos de la création et qui est le kairos aussi de la fin du monde. Le temps presse, les temps se sont contractés, nous dit saint Paul. Nous avons la chance de nous dire que nous ne pouvons plus croire que nous vivons dans une parenthèse, que nous avons le droit d'ouvrir des parenthèses, que le monde, non, c'est demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que le Christ pourrait bien nous rejoindre. Nicolas Gomez d'Avila disait « On reconnaît un chrétien au fait que c'est un homme qui vit dans l'imminence d'un perpétuel tremblement de terre. » On pourrait dire un tremblement de terre, mais aussi un tremblement de ciel. Et enfin, sens de l'humour. Sens de l'humour, si j'avais eu beaucoup de temps, mais je pourrais vous le partager, et je vous l'indique, ce sont les dernières pages d'Achevé Clausewitz de René Girard et de Benoît Chantre. René Girard propose un texte très fort, un texte vraiment où il pense que la montée aux extrêmes va avoir lieu, et René Girard parle à la fin, tout à la fin de ce livre, dans un court texte voilà, que je pourrais envoyer aux frères, par exemple, pour qu'ils vous le communiquent, que j'ai photographié, dans un court texte qui s'appelle, je ne sais plus quel titre, mais c'est un petit résumé de toute sa pensée, en 4 pages, c'est précieux. Et René Girard dit ceci, que finalement, à la fin du monde, il n'y a plus que les fondamentalistes qui en parlent, ou, du moins c'était il y a 20 ans, maintenant tout le monde en parle, il n'y a plus que les fondamentalistes qui en parlent, et il manquait peut-être un peu de sens de l'humour, car il n'imaginait pas que cette fin du monde pourrait advenir par l'homme lui-même. Car, selon René Girard, le Christ nous a fait une proposition de vie qui est folle, qui est de sortir de ce qu'il appelle le désir mimétique d'appropriation. « Je veux ce que tu as ». De sortir du meurtre du bouc émissaire, de sortir... Le Christ nous a fait une proposition folle, mais, dit-il, le christianisme avait cet humour, car le christianisme est la seule religion qui avait prévu son propre échec. Et qu'est-ce que c'est que l'Apocalypse, les textes apocalyptiques, et pas nécessairement Saint Jean, mais aussi les passages apocalyptiques dans les évangiles? René Girard dit, c'est une religion qui a su que sa proposition de vie, sa menace de vie était telle que les hommes, en réalité, continueront d'avoir des boucs émissaires, continueront de s'armer, développeront des techniques de plus en plus radicales pour tenir la dragée haute face à l'ennemi, au lieu de choisir la voie de la haute pauvreté. Et que le christianisme a eu le sens de l'humour, voilà, de prévoir son propre échec. Et donc, il a dit à la fois, qu'est-ce que c'était que le paradis ? Vivre en dehors de la vengeance, et pourtant ce que serait peut-être notre fin du monde. Seuls les fondamentalistes parlent de la fin du monde, c'est le dernier mot de Achevé Clausewitz de René Girard. Ils n'ont peut-être pas vu que la fin du monde viendrait par l'homme lui-même, car fondamentalement, il manque de sens de l'humour. Merci de votre attention.